grains de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir, vous êtes en direct sur Radio Canu, l'émission Le Grain de Sable d'Attaque. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aumont, qui est le président de la Fabrique d'Objets Libres.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Pierre. Alors, c'est quoi l'origine de cette fabrique, entre guillemets ?
Alors, la Fabrique d'Objets Libres, c'est une association loi 1901 qui a été créée en mars 2012 et qui répond à cette charte qu'on appelle la charte des Fab Labs. En fait, ça correspond à un atelier partagé dans lequel on peut trouver les fameuses machines imprimantes 3D, découpe laser et tout je dirais, le nécessaire de bricolage pour pouvoir faire à peu près tout et n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête.
Et l'origine des
Fab Labs,
des Fab Labs, ouais. ça vient d'où ? Qu'est-ce qui a eu l'idée et on s'inspire de quoi dans ces Fab Labs ?
Alors, ce qui est amusant, c'est que derrière la notion de Fab Lab, il y a une notion de révolution qui arrive, alors qu'en réalité, peut-être qu'on réinvente un peu l'eau chaude d'une certaine façon. C'est des ateliers partagés, je crois qu'il y en a toujours eu, partout et de tout temps. Et la particularité, ce qui fait à mon avis que ça a vraiment bien pris et qu'on peut y trouver beaucoup de monde et qu'il y a un emballement avec ça, c'est le fait que non seulement ces ateliers sont partagés, mais aussi ils sont connectés entre eux. On trouve des Fab Labs partout dans le monde maintenant. Alors, on doit approcher les 1000, je crois, maintenant. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de connecter des ateliers entre eux ? C'est parce que ces ateliers qui portent le nom Fab Lab ont tous, disons, un minimum d'équipement qu'on va pouvoir retrouver à chaque fois. Et donc, on va pouvoir, quand on a développé quelque chose, construit un objet, réparé quelque chose, détourné un objet, on va pouvoir faire la même chose dans un autre Fab Lab puisqu'on a les mêmes équipements. Donc, ces ateliers sont connectés entre eux par Internet. Donc, c'est cette combinaison atelier partagé et partage via Internet qui fait qu'il y a un phénomène mondial et non pas un phénomène uniquement local lié à une communauté existante sur un territoire.
Mais quels sont les... Pardon.
Ce partage, il se passe comment ? C'est par document
Oui. Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que Internet, a priori, ça sert surtout à échanger de l'information. Donc, on pourrait dire, ces ateliers sont connectés entre eux parce qu'ils peuvent se parler, comme on s'enverrait des mails, finalement, sur des mêmes thèmes, comme un forum. En fait, ça va plus loin que ça. Dans les Fab Labs, ce sont des machines à commande numérique qu'on trouve. C'est-à-dire que ces fameuses imprimantes 3D ou découpes laser, elles sont pilotées par des fichiers qui ont un certain format, qui sont justement compatibles avec toutes ces machines qu'on retrouve partout. Et donc Internet, encore plus que la possibilité d'échanger les uns avec les autres, je dirais verbalement, c'est surtout la possibilité d'échanger ce qu'on pourrait appeler le code du fichier, de la même façon qu'on parle du code du logiciel, ce qui a conduit dans la même typologie de partage et d'échange au logiciel libre, au logiciel open source. Dans les Fab Labs, on a cette notion de code d'un objet donné qu'on peut partager par fichier sur Internet. Donc il existe des plateformes de documentation sur lesquelles on peut gratuitement télécharger tout un tas d'objets et sans avoir de connaissances particulières en CAO, donc en dessin 3D pour faire les objets, etc., on peut récupérer ce qui a été fait par d'autres, dans d'autres Fab Labs ou ailleurs d'ailleurs, dans des lieux un peu apparentés. Et on télécharge cet objet, on l'envoie dans la machine, on récupère l'objet. Donc c'est extrêmement simple.
Quand tu parlais d'international, on se libère aussi de l'obstacle de la langue, en fait.
Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est une bonne question. La documentation est un problème de fond depuis la création des notions de Fab Lab au début des années 2000, hein, c'est-à-dire vraiment très très peu de temps après la popularisation d'Internet. Et c'est vrai que l'anglais est vraiment la langue commune, hein, c'est comme pour tout. Mais on se rend compte que la documentation, les uns et les autres, c'est-à-dire le fait de pouvoir partager les objets qu'on fait, se fait souvent dans deux langues. La langue d'origine, je dirais, de la communauté locale où on trouve les objets. Et puis en général, vraiment ce qui vaut le coup, les objets qui sortent vraiment du lot, ils sont partagés aussi sur des plateformes beaucoup plus internationales et en anglais. Voilà. Et c'est vrai aussi quand on va sur les plateformes, finalement, je dirais que l'image marche aussi beaucoup. On pourrait peut-être aller dans une, un site web, polonais et sans le parler absolument et récupérer le code de l'objet uniquement parce qu'au travers des images, on peut s'en sortir. Mais en réalité, l'échange et la connexion entre communautés, elle est quand même largement plus importante que simplement la captation des objets qu'on trouve au sein des autres communautés. C'est un mouvement de fond plus large.
Alors, ces Fab Labs, ce sont des associations. Et ces associations, elles poursuivent quel objectif plus particulièrement ?
Oui, alors c'est vrai que le terme Fab Lab maintenant regroupe beaucoup d'acteurs. Alors, c'est vrai que l'essentiel est associatif. Il y a maintenant des Fab Labs qui se disent entrepreneuriaux. D'ailleurs, on a entendu, c'est Leroy Merlin qui a ouvert une sorte de Fab Lab à ses clients. Il s'est associé avec une grosse boîte américaine pour le faire. Ils n'emploient pas le terme Fab Lab dans les écrits, dans la communication qu'ils font, mais ils font bien comprendre que c'est dans le même, ils évoluent dans le même système. D'ailleurs, c'est les mêmes machines qu'on trouve.
Est-ce qu'il y a des principes partagés voilà. dans les Fab Labs ?
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence maintenant entre la marque, c'est-à-dire de ce terme-là qu'on emploie avec le mot Fab Lab, et donc avec ce que je pourrais appeler une récupération par des grandes enseignes comme Leroy Merlin, mais il y a aussi une notion de charte, de principe et de philosophie qu'on va trouver dans les Fab Labs, au sens pur du terme, si j'ose dire, qui répondent aux critères qui ont été énoncés par le MIT, qui est une université américaine qui a créé le concept, et qui a été repris par la Fab Lab Foundation aux États-Unis. En fait, c'est une fondation internationale. Donc effectivement, la majorité des Fab Labs répondent à ces critères-là, et c'est des critères qui sont, je dirais, très ouverts, et dans lesquels il n'y a pas de notion de commerce, justement.
En fait, ça a été vraiment à l'origine, quelque chose d'universitaire, un peu, avec le côté scientifique et assez, effectivement, ouvert.
Alors, le MIT, c'est une université qui s'est toujours distinguée des autres parce qu'elle a toujours été très en avance. Et pour le coup, il y avait un professeur qui animait un cours qui s'appelait « Comment fabriquer à peu près n'importe quoi ?» Et il s'est posé la question de dire qu'est-ce qu'il serait le minimum de machines qu'il faudrait qu'on ait dans cet atelier, ou qu'il ne pensait pas spécialement ouvrir au-delà du MIT au départ, pour qu'on puisse vraiment réaliser à peu près tout et n'importe quelle idée qui pourrait venir à l'esprit des uns et des autres. Et il a rassemblé donc un certain nombre de machines qui font partie maintenant, je dirais, de cet archétype des Fab Labs, entre l'imprimante 3D, la découpe laser, la découpe vinyle, le prototypage électronique, etc. Et il a décidé d'ouvrir cet atelier plus loin, au-delà des simples étudiants qui devaient participer à son cours, en disant toute personne de l'université peut venir dans cet atelier. Et ça a été un succès monstre. Il a fallu pousser les murs. Donc il s'est dit, si ça intéresse autant de monde, autant aller au-delà, créer ce concept et voir si finalement tout à chacun, le moindre citoyen, pourrait pas participer aussi, voudrait pas s'en servir pour lui-même, pour ses propres idées, pour doper aussi bien l'innovation que la réparation et la matérialisation des idées qu'on a à l'esprit très facilement. Donc finalement, les valeurs qui sont parties de ce besoin, je dirais, universitaire, c'est que il y a l'idée de se rassembler autour de ces ateliers de façon extrêmement large et d'apprendre les uns des autres et d'apprendre en faisant. Et ce qui fait que même si on a l'impression au départ de pas être concerné par ces machines-là, dans le sens où on sera jamais capable de faire, en réalité, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider, puis on va apprendre progressivement les uns des autres et on finira par être autonome vraisemblablement sur les machines. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Donc, cette notion à la fois de partage des choses qui sont faites et qui sont utiles, ce phénomène, disons, de l'entraide qui est extrêmement fort dans ces lieux-là, finalement, c'est devenu à la fois un lieu, je dirais, d'innovation technique parce que on pouvait inventer des nouveaux objets ou réparer ou détourner, mais aussi c'est devenu un lieu social. Et donc les Fab Labs se sont mis à faire partie de ce mouvement beaucoup plus large des tiers-lieux et dans lesquels on peut y aller parce que c'est un lieu aussi d'innovation sociale finalement.
Et puis un lieu aussi de formation.
Ouais, c'est vraiment même si c'est pas forcément ce qu'on vient chercher, même si l'esprit du lieu nous intéresse, on finit toujours par apprendre quelque chose. Et même, je dirais, sans s'en rendre compte, on finit par apprendre aux autres aussi des choses qu'on maîtrise finalement, très rapidement.
En fait, la philosophie, c'est l'échange.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a même aujourd'hui certains Fab Labs qui disons n'ont pas de machine, et c'est simplement le fait d'animer une communauté ou de réfléchir sur des aspects numériques ou de vie de société, mais qui utilisent ce principe du rassemblement et de l'horizontalité dans la façon d'aborder tous les sujets, de réfléchir et d'inventer.
Voilà. Il y a aussi le principe, un peu comme on a les logiciels libres, de choses voilà, qui sont aussi ouvertes au niveau, au niveau du code, et le principe aussi des biens communs. De
c'est
façon
ça, plus large. Exactement. Et c'est d'ailleurs la raison d'être du terme lui-même, du nom de notre association, qui est la fabrique d'objets libres. En fait, l'ancêtre de... je dirais, de cette philosophie un peu qu'on reprend dans nos structures, c'est le logiciel libre, clairement, qui est bien antérieur, je dirais même à Internet, puisqu'avant, simplement, on se partageait les logiciels qui étaient développés par ceux qui voulaient justement ouvrir le code et libérer les logiciels, mais se le partageaient simplement par des disquettes. Et Internet est venu, je dirais, populariser et étendre encore plus cette façon de faire. Avec les Fab Labs, c'est la même chose. À partir du moment où on considère que le code d'un logiciel et le code d'un objet peuvent être partagés par Internet, eh bien effectivement, il y a cette notion de un objet qui serait libéré. C'est-à-dire que si j'imagine une chaise, un peu d'ailleurs même pas spécialement originale, mais j'ai une idée d'une chaise, d'une forme, et que je tiens pas à en faire commerce spécialement, donc je vais pas le fermer pour pouvoir me conserver cette idée uniquement à moi.
Le brevet de la chaise.
Le brevet, enfin, en l'occurrence, c'est le design, le dessin et contour. Eh bien, je vais dire, ça va servir à d'autres. Donc, allons-y, je partage le code avec d'autres, de la même façon qu'effectivement avec le logiciel, je pourrais partager le logiciel que j'ai fait pour mon utilité personnelle au départ.
Il y a presque, pourtant c'est très moderne, numérique, il y a presque un côté artisanat.
Ah oui, c'est vrai que ce qui est assez curieux, c'est que je parle de code d'objet, je parle de fichiers qui viennent contrôler les machines. Donc, on a l'impression que la main a pas trop à faire là-dedans et que tout le monde pourra s'y mettre simplement en cliquant sur le bon bouton, mais en réalité, ça fait 80% du travail. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais en général, il y a quand même l'assemblage à faire, il y a la finition, etc. Mais c'est le plus compliqué qui est fait, je dirais, par la machine. Et on commence à créer la notion d'artisanat numérique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des liens assez forts avec les artisans, parce que on participe à la formation, à leur formation aussi, à leur apprendre comment utiliser ces machines. Et puis eux, évidemment, ils nous apportent vraiment tout le reste, tout le savoir-faire, des petites choses que nous, on ne maîtrise pas du tout parce qu'on n'est pas artisan, évidemment, au départ. Donc oui, il y a cette notion d'artisanat numérique qui est en train d'émerger derrière ça.
Alors moi, j'ai une pièce que je voudrais faire. Je ne peux pas la faire dans les Fab Labs. Il faut que ce soit moi qui apprenne tout le système des Fab Labs. Il va falloir que je m'investisse beaucoup là-dedans, finalement, moi qui ne suis pas très bricoleur.
C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, effectivement, quand on voit l'imprimante 3D et on fait énormément d'événements à l'extérieur où tout le monde est fasciné, moi je l'ai été le premier par cette pièce qui apparaît sur le plateau de nulle part, c'est vraiment impressionnant, surtout qu'on a tous à l'esprit cette idée que le plastique, dès qu'on a un problème avec un objet en plastique, on peut flinguer complètement un objet parce qu'il y a une pièce qui est cassée et qui pourtant on en est certain coûterait rien, mais elle n'est pas disponible dans le commerce. Donc effectivement, il faut maîtriser cette notion de dessin en 3D, de CAO. Et si on ne trouve pas sur le net la pièce qu'on veut faire, si c'est pour réparer un objet, ou si on a quelque chose à l'esprit, comment on va faire ce plan? Alors, dans le Fab Lab, il y a la notion de do it yourself, fais-le toi-même. Ou ouais. D'ailleurs, do it together, faisons-le ensemble. Bon, mais c'est vrai que ce n'est pas un lieu de production, un Fab Lab, où on fait de la petite série, etc. C'est un lieu où on va vous apprendre à faire ce dont vous avez besoin. Et si vous avez un problème, on va vous aider. Mais on n'est pas là pour le faire à votre place. Et c'est sans doute une des limitations aujourd'hui qu'il y a dans les Fab Labs, parce que c'est très très beau dans le principe, mais tout le monde n'a pas ni le temps, ni l'envie tout simplement, de vouloir, je parle même pas des compétences, parce que je pense que tout le monde aurait ses compétences s'il en a le désir et le temps. Mais c'est peut-être un autre sujet. En tout cas, on n'a pas à obliger les gens, évidemment, à apprendre ces choses, à devenir autonome sur la fabrication numérique, sur l'utilisation d'imprimantes 3D, c'est évident. Est-ce qu'on doit pour autant limiter, je dirais, l'usage de ces Fab Labs et surtout le service qu'ils rendent, qu'ils nous rendent et qu'ils peuvent nous rendre à tous, si personne ne peut le faire à notre place? Et je crois que c'est sans doute une des évolutions qu'on va voir dans nos milieux, dans nos écosystèmes, pour peut-être, ça peut être de l'échange, du troc de compétences, ça peut peut-être être une façon aussi de faire vivre la communauté, si ça peut être de l'échange de services ou peut-être même l'échange d'euros, il faudra voir comment on peut procéder. En tout cas, la question est vraiment posée, parce qu'il y a un tel engouement et on se rend compte qu'il peut y avoir un tel intérêt dans nos vies et dans nos villes, Et c'est pour ça qu'on entend parler d'ailleurs de Fab City. Maintenant, il y a des concepts de Fab City comme à Barcelone où ils décident de mettre des Fab Labs dans tous les quartiers parce que ça peut servir aux citoyens. Oui, mais si on ne sait pas se servir des machines qu'il y a dedans, etc., comment faire? Donc, il faut certainement qu'on se remette un peu en question maintenant après cette première vague, après une dizaine d'années. Alors, pas en France, la dizaine d'années, mais enfin, le concept existe depuis une dizaine d'années et puis depuis 2009 en France. Oui, il va falloir peut-être qu'on évolue pour que ce service soit vraiment rendu à tous et qu'on puisse, eh ben, faire un peu la, remplir, je dirais, la promesse qu'on a, qu'on porte tous un peu en nous dans ce Fab Lab, qui est la promesse finalement de la réparabilité, de créer tout, que tout le monde puisse créer tous les objets qu'il le désire, de lutter contre l'obsolescence programmée, etc.
Et aujourd'hui, alors, dans la fabrique des objets libres, ça se passe comment? Est-ce que c'est des gens qui connaissent déjà, qui viennent? Est-ce que c'est des gens qui restent longtemps ou qui viennent juste voir? Est-ce que vous travaillez sous forme d'atelier ou de mise à disposition?
Il y a quatre temps majeurs dans l'association. Bon, la formation, c'est vraiment le socle. Il y a quelques personnes qui viennent en sachant à peu près utiliser toutes les machines, mais en général, ce sont les étudiants qui ont eu des ateliers.
Geeks, en fait.
assez peu je trouve, ou alors c'est peut-être une nouvelle type de génération de geeks. Mais il y a des étudiants, alors en archi, des étudiants en design qui ont appris dans leurs écoles à utiliser ces machines, qui sont tout de suite autonomes. Mais en réalité, quasiment tout le monde au départ, on est monté jusqu'à 190 adhérents, on est plutôt entre 120-140 adhérents maintenant. Beaucoup de gens, même s'ils maîtrisent une machine, les personnes ont besoin quand même d'être formées sur le reste, et puis ils avaient peut-être des notions assez limitées, et on apprend quoi qu'il arrive toujours. Donc on fait des formations, alors à la fois vraiment des grandes bases pour apprendre à faire donc le dessin en 3D, apprendre à utiliser une découpe laser qui est vraiment finalement la machine la plus utilisée dans un Fab Lab. On apprend à dessiner en 2D, en 3D, on apprend à faire du prototypage électronique pour ceux qui le veulent, on apprend à réutiliser aussi la main, on apprend à faire des lampes sans utiliser une seule machine, etc. On fait des ateliers de Noël pour faire des cadeaux de Noël qu'on vient fabriquer au Fab Lab, etc. Avec différents niveaux de complexité. Donc on apprend en réalité, on fait des petits robots, on fait des robots avec des brosses à dents, enfin, on fait vraiment du détournement d'objets pour à la fois s'amuser, et grâce à ce côté amusant, on va apprendre, et finalement, ce pour quoi on est venu, qui était très ludique, finalement, on va faire des choses de plus en plus utiles avec le temps. Donc la formation, c'est à la fois très directement dans l'inscription à des ateliers de formation, et puis c'est aussi au fil de l'eau que ça se passe. Il y a un deuxième temps qui est le temps libre. Les gens viennent avec des idées d'objets à créer, à réparer, et ils vont profiter du bouillonnement qui se passe 3 jours par semaine dans le Fab Lab pour pouvoir utiliser leur savoir-faire qu'ils ont nouvellement acquis et la connaissance des autres, pour pouvoir faire leur propre projet. Ensuite, il y a le temps le plus archétypal, je dirais, du Fab Lab, c'est celui où on vient pour un projet collectif, cette fois qui va intéresser la communauté. Donc là, on va trouver typiquement, d'abord, créer des nouvelles machines pour le lab, parce que c'est vrai que dans les personnes les plus, intéressées par le Fab Lab, ils adorent les machines, c'est vrai que c'est des geeks dans ce sens-là, et en créer de nouvelles ou les améliorer. Et puis, aussi, tout simplement, on fait des projets collectifs qui servent la communauté. Alors, on travaille avec, par exemple, le comité Louis Braille, pour lequel on a fait des choses pour les aveugles. On travaille avec une association qui s'appelait L'été musical et qui fait qui cherche à développer des compléments pour les instruments de musique pour les handicapés qui, par exemple, peuvent pas utiliser un saxophone tel qu'il est s'ils ont un handicap à la main. Donc, de faire des extensions, de modifier les instruments pour que des personnes qui, du fait de l'handicap, peuvent pas directement utiliser ces instruments.
Vous avez approche particulière par rapport à la question du handicap, parce que c'est des gens qui ne trouvent pas ce dont ils auraient besoin, en fait.
Exactement. Mmh. Il y a vraiment la notion de personnalisation, c'est évident qu'il est possible. Mais le développement, c'est quelque chose qui a de la valeur. Alors, soit c'est de la valeur, je dirais, en termes d'emploi ou de travail qui est rémunéré quand on est dans le système, je dirais, traditionnel. Dans un Fab Lab, c'est l'entraide qui est le principe. Donc, la valeur, elle est vraiment au chacun. Toutes les personnes qui collaborent typiquement dans ces temps de bidouille. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des ateliers en partenariat avec d'autres associations, qu'on arrive vraiment à répondre à des besoins individuels. Par exemple, au début de l'association, on a collaboré avec l'hôpital mère-enfant de Bron pour développer des masques de ventilation pour des nourrissons de moins de 6 mois. Il n'existe pas dans le commerce des masques de ventilation qui soient adaptés à leur visage et ou à la typologie d'un visage. Et il n'y a pas suffisamment de marché. Le marché n'est pas suffisant pour qu'il y ait un développement qui se fasse dans le monde de l'économie traditionnelle.
Du marché.
Dans le marché. Donc on a travaillé à ça. Il y a des prototypes qui sont sortis. Mais c'était peut-être que le monde des Fab Labs en France, je sais pas, on n'était pas encore assez mature. Il y a des problèmes qui sont ressortis et qui sont liés au juridique. Quelle licence utiliser? Comment faire pour faire en sorte que quelque chose soit open source, certes, mais si à partir du moment où il va falloir injecter de l'argent, s'il faut faire des mini-séries, qui le fait? Qui le porte? Est-ce qu'il y a de l'argent qui revient à une communauté, à une personne, aux différentes personnes qui ont fait le développement? Et je crois que le défaut qu'il y a eu dans ce projet-là, c'est que le socle, je dirais, juridique ou de la licence n'était pas prêt.
Même pour l'homologation, parce que quelque chose dans un hôpital, aussi. Il faut, il y a les normes. Oui. Voilà, entre sécurité ou...
Donc on n'était pas prêt. Et ça a capoté, non pas techniquement, pas parce que ça manquait de ressources, mais ça a capoté parce qu'il y a eu finalement un désaccord sur la façon de franchir l'étape de la simple pré-prototypage ou du prototypage. Donc ça, c'est un vrai problème qui nous reste à l'esprit, qui est un peu, je dirais, une...
Et que vous pouvez partager avec d'autres Fab Labs, parce que vous dites on partage,
oui, beaucoup.
Alors, partage les objets créés, mais il y a aussi les enjeux,
les pratiques et les difficultés.
Les questions de passer à autre chose aussi en termes juridiques. Ou...
C'est un vrai sujet et on ne le fait pas tous, mais on essaye de s'y mettre. Et la documentation est un vrai vrai problème. Et dans certains projets qu'on fait maintenant, mais même dans notre association, on ne fait pas tous, on n'arrive pas à le faire pour tous les projets. Mais typiquement, je travaille en ce moment sur un projet de prothèse auditive open source. Donc l'idée, c'est de pouvoir adresser vraiment la surdité assez classique liée à la vieillesse, ou en tout cas, des surdités trop profondes, et de pouvoir aller dans un Fab Lab pour pouvoir se faire aider à fabriquer cette prothèse pour soi. Voilà, très, très basiquement. Donc c'est un projet qui est en cours de développement, et la question qui se pose... C'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour, je dirais, avoir le droit de faire ce qu'on fait au niveau de cette prothèse, au niveau de la norme, c'est un vrai problème. Si on fait travailler des gens pour réaliser ces prothèses ou qu'on fait des petites séries, qui on va pouvoir faire participer?
Comment on les vend,
et pendant le développement lui-même, tous les problèmes qu'on a rencontrés, comment est-ce qu'on doit aussi les documenter pour que d'autres qui voudraient, disons, s'embarquer dans la même logique que nous, dans un autre lieu, peut-être en adoptant d'autres principes, apprennent des propres erreurs qu'on a faites. Donc la documentation, c'est aussi bien l'erreur technique, enfin la réussite technique une fois qu'on a réussi le projet, les problèmes techniques qu'on a rencontrés petit à petit pour que d'autres rencontrent pas les mêmes problèmes, et puis troisièmement, les problèmes, je dirais presque, j'allais dire sociaux, c'est-à-dire dans la communauté qu'on a rencontré à cause des désaccords, à cause de la licence qui a pas fonctionné, etc., pour qu'on s'améliore sans cesse. Et c'est pour ça qu'on dit qu'avec les Fab Labs qu'on a un lieu d'expérimentation technique et sociale. Également. Voilà. Donc la documentation, c'est une clé, et effectivement, le juridique est une clé aussi essentielle, et on essaye de travailler sur le juridique. C'est un gros sujet qu'on essaye d'aborder en lien avec la prothèse auditive, parce que notre intention dans la prothèse auditive, c'est à la fois de la rendre, et elle l'est déjà, open source, disponible, et que chacun puisse, sans nous rendre de compte, les fabriquer en Fab Lab, et d'un autre côté, de se dire, pour répondre à la même question que celle que Jean-Jacques a soulevée tout à l'heure, mais les personnes qui veulent pas aller dans des Fab Labs, qui en ont pas à côté, etc., comment on leur met à disposition? Est-ce qu'on doit l'empêcher d'avoir le droit d'utiliser ces prothèses si j'ai pas de Fab Lab à proximité?
Mais est-ce qu'on les fait payer?
Est-ce qu'on les fait payer? Ou est-ce que c'est que le coût de la matière ou pas? C'est une vraie question.
Et si on les fait payer, comment ça se passe au niveau de remboursement sécurité sociale qui pourrait exister?
C'est une vraie question et c'est en cours. Et je dirais que le sujet va être sur la table de la communauté. On a travaillé en petite équipe pour l'instant, parce que c'est important avant d'ouvrir à une communauté d'avoir, je dirais, un socle déjà bien établi sur lequel on va construire. Donc le socle technique est prêt, le premier prototype fonctionne, il est là. Et maintenant, le prototype qui n'est pas encore complètement prêt et qui se base sur notre expérience et celle d'autres structures, c'est le prototype juridique, comment on va encadrer tout ça pour que tout le monde s'y retrouve, tout en ayant à l'esprit que c'est un crash test, c'est-à-dire qu'il faut pas nous en vouloir les uns les autres si ça ne marche pas, ça nous apprendra pour la fois suivante. Voilà, donc restons très bienveillants là-dessus.
On va faire une petite pause musicale, ce qui va nous permettre de souffler. Alors, tu nous as ramené quoi pour cette pause?
Tu m'as proposé d'amener une musique et je me suis trouvé en position finalement dominante. Alors je me suis dit, je vais faire passer un morceau de mon groupe, parce que je fais aussi de la musique à côté, d'un groupe qui s'appelle Kairos Quintet. Et alors le morceau s'appelle Peplum. Voilà.
Très bien. Musique. impressionnant.
Ah, il faut que je les annonce. Hein. Donc c'était Kairos Quintet, c'était Peplum le morceau. Voilà.
Merci. Bon, alors même s'il s'agit de l'économie sociale et solidaire, peut-être même de la réappropriation des moyens de production, la finance n'est pas totalement étrangère à tout ce que vous faites. Les moyens, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens en locaux, vous gérez tout ça comment ?
Eh bien, alors ça, tout a commencé dans un salon, comme souvent, voilà. Donc au départ, il n'y a pas besoin d'énormément de moyens. Et les machines, c'est ça qui est aussi intéressant dans les Fab Labs, c'est qu'on peut se fabriquer ses propres machines aussi. Alors ça réduit beaucoup le coût.
Sachant qu'il faut peut-être des machines pour fabriquer les machines.
C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un principe qu'on trouve dans les imprimantes 3D. Il y en a une qui s'appelle la RepRap. Et ça veut dire, c'est pour réplicator. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a une, on peut fabriquer les autres machines. À partir d'une première machine, on fait les autres. C'est vrai. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on fabrique beaucoup, on bricole les machines. Et voilà. Donc les moyens, finalement, on en a tous besoin. Et même si l'accès, je dirais, au Fab Lab est très à bas coût, hein, l'adhésion est à 12,50€ à l'année.
Ah ouais. Après, et l'investissement en machine est quand même...
Ah oui, c'est... Oui, alors on doit en être à... maintenant, en équivalent, ça doit être 70 000€. Donc du salon à 70 000€, ça commence à... Il a fallu... Enfin, l'association existe depuis mars 2012, donc il a fallu travailler pour ça. Et donc c'est vrai qu'on fonctionne sans subvention... Enfin, non, j'exagère. On fonctionne pas sans subvention de fonctionnement. On est aidé, on est peu subventionné. La mairie de Bron nous donne une aide de 2 000€ parce qu'actuellement, on a 3 salariés, on a un emploi aidé. Donc ça, c'est quand même une aide indirecte, l'emploi aidé, il n'y a pas de doute. On a l'aide de la MJC de Bron qui, au bout de 2 ans, nous a proposé des locaux pour co-gérer un Fab Lab avec eux. En réalité, la fabrique d'objets libres ne se limite pas au Fab Lab de la MJC de Bron. C'est une co-animation qu'on fait grâce à eux. Et je remercie son directeur, Daniel Faure, de nous avoir vraiment fait confiance là-dessus pour qu'on puisse se développer. Mais maintenant... En plus de, on pourrait très bien ouvrir un autre lieu, d'ailleurs complémentaire de celui-là. Celui-là serait plus éducation populaire, disons, et on aimerait un lieu d'ailleurs beaucoup plus orienté artisanat et si possible intramuros. Mais pour revenir à la question des moyens, de ceux actuellement et de ceux à venir, effectivement, c'est pas les subventions qui nous ont permis de nous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est rendu compte que, étant donné que les Fab Labs, oui, c'est très bien pour le particulier, c'est très bien pour nous tous, pour les retraités, pour les étudiants, mais c'est aussi bon pour les pros. Et les pros ont besoin de ce type de machines ou de savoir-faire ou voilà. Donc on a proposé de louer notre Fab Lab, nos machines et même notre savoir-faire, c'est-à-dire l'accompagnement par un Fab Manager qui est le concierge du lieu, disons. C'est le terme qu'on emploie dans les tiers-lieux. C'est l'animateur, le facilitateur. Eh bien, des entreprises viennent nous louer une heure, deux heures, une matinée du Fab Lab pour leurs projets qui sont fermés, c'est-à-dire qui correspondent pas du tout à l'éthique du Fab Lab. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce pourquoi le Fab Lab a été fait et initié. Mais on se dit, c'est pas un problème. Très bien, puisque vous voulez faire vos projets fermés. Très bien, la contrepartie, c'est que du coup, l'accès est plus cher et nous, ça nous fait vivre. Et comme ça, petit à petit, on s'est équipé. On n'a pas de locaux à louer puisque c'est la MJC de Bron qui nous les prête. Et puis on a aussi une sorte d'extension à notre Fab Lab qui est le Fab Lab mobile qui est déjà en service depuis un petit moment et qui va disons être complètement officialisé au mois d'octobre, qui est un gros camion équipé intégralement en Fab Lab et qui va nous permettre d'aller en milieu rural, d'aller dans les écoles, enfin aller vraiment beaucoup plus vers les utilisateurs parce que c'est vrai que la MJC de Bron est pas très facile d'accès en transport en commun. Voilà. Donc, petit à petit, on a, je pense, fait pas une trop mauvaise gestion de nos finances. On a réussi à faire un petit peu de réserve. Maintenant, on arrive à travailler avec un budget de 45 000€ à peu près par an. Et donc, on a 7 emplois aidés, ce lieu qu'on arrive à co-animer. On a embauché en septembre 2015, ça fait pile un an, ouais, notre premier salarié sur fond, on dirait propre, sans aide, sans rien. Et on a un service civique qui travaille avec nous et qui s'occupe vraiment de dynamiser la communauté. Donc voilà comment on fonctionne. Et puis on fait aussi des prestations à l'extérieur. Et notre Fab Lab mobile, d'ailleurs, il aura 2 vocations. Et qui montre bien le caractère hybride qui est porté par le Fab Lab et qu'on voit déjà au niveau de sa fréquentation. Donc ce côté très... cette mixité qu'on trouve dans le Fab Lab. Le Fab Lab, ça va donc du grand public, comme je disais tout à l'heure, jusqu'au professionnel. Eh bien, le Fab Lab mobile, il va un peu... représenter ça, on va à la fois avoir des actions solidaires, c'est-à-dire on va travailler avec la mission locale, l'école de la seconde chance. On va travailler, on est en train de mettre en place un partenariat avec le lycée de Fézin où on va aller une fois par semaine pendant plusieurs mois. Voilà. donc dans l'idée, je dirais, de redonner le goût du faire, rematérialiser le numérique pour les jeunes qui sont vraiment beaucoup, beaucoup dans le virtuel, se redonner confiance en soi parce qu'on a une idée, on a pu la matérialiser, disons, développer la capacité d'imagination dont on se rend pas forcément compte quand on est jeune. Donc voilà ce qu'on va adresser dans la partie solidaire. Et d'un autre côté, on va essayer aussi de se professionnaliser et d'aller voir des entreprises pour montrer un petit peu les façons qu'on a de travailler ensemble, de travailler ces nouvelles valeurs un peu qu'on a dans l'organisation du travail, parce qu'on travaille mine de rien dans ces assos beaucoup et on crée de la valeur. Les nouveaux business models aussi qui sont liés au libre et qui sont pour certains inspirés de ce qu'on trouve dans le logiciel et que maintenant on peut faire dans les objets, dans les produits objets maintenant. Donc le Fab Lab Mobile aura aussi cette vocation d'aller faire ces fameux hackathons dont on entend parler, c'est-à-dire ces espèces de sprints de l'innovation, d'événements de prototypage dans des entreprises ou autres, ou dans des usagers, ça peut être les TCL, ça peut être la SNCF, etc. Et ça va à la fois nous rapporter de l'argent pour fonctionner encore mieux, puisqu'on était dans la logique du budget, et en même temps aussi promouvoir nos valeurs au-delà de l'entre-soi. C'est vraiment l'idée de, on a peut-être des choses à prendre de l'extérieur, et l'extérieur peut-être aussi un peu à prendre de choses de chez nous. Donc on espère vraiment que cette hétérogénéité qui est vraiment la richesse du Fab Lab, elle puisse se faire de plus en plus et voilà. Donc arriver à l'équilibre.
Oui, c'est un volet militant même là plus que social dans le
fait. C'est ce qui me plaît moi dans cette, vraiment à titre perso dans ce sujet, c'est que. On peut à la fois rencontrer des personnes très militantes et qui peuvent collaborer avec des gens qui sont aussi très business. Il y a des gens qui sont qui travaillent à des startups qui viennent dans le Fab Lab certainement que beaucoup d'entre elles viennent non pas spécialement pour les valeurs des Fab Labs au départ, mais simplement parce que c'est un lieu de pré-prototypage qui est à bas coût et qui peut permettre de tester l'idée. Donc on se rend compte que ce mélange, tout simplement, il apprend à casser les barrières, à se connaître. Et c'est, je crois même qu'il y a certainement des entrepreneurs qui viennent peut-être changer un peu leurs idées dans la façon mettre le modèle économique qu'ils vont mettre derrière leur système une fois qu'ils ont rencontré ce genre de milieu. Et puis, il y a aussi tout simplement des personnes qui sont des vrais entrepreneurs, je dirais, militants et qui fabriquent des objets libres, entièrement libre, open source, et qui les vendent simultanément. Donc je pense par exemple à c'est un appareil électronique, mais une sorte de 3D pad, c'est ce qui nous permettrait de faire par exemple un peu comme dans le film, j'ai oublié son nom, ça vous permet de contrôler ce qui se passe à l'écran en bougeant vos mains et vous voyez, vous pouvez Minority Report, c'est ça. Voilà, il y a un objet qui a été développé par un maker lyonnais comme ça, l'objet est open source, on peut se le fabriquer dans un Fab Lab si on veut, mais on peut aussi lui acheter. Et donc lui, il vit de cette de cette chose-là, il vend quelque chose open source et que ça marche. Voilà. Alors on parlait de moyens financiers, oui, on est tout à fait aussi à l'écoute de toute structure qui voudrait faire du mécénat, on n'est pas contre. Oui. La Fondation Orange nous a aidés pour la partie Fab Lab Mobile et je la remercie, puisque c'est elle qui, parce qu'on voulait faire une activité solidaire, nous a donné les finances, en l'occurrence 20 000 euros, pour pouvoir acheter le camion et l'équiper. Et ça c'est une bonne chose, voilà, on aimerait davantage de mécénat.
Alors les évolutions, le futur des Fab Labs, c'est pas figé. On sent que on est il y a un virage là qui doit se prendre ou qui peut se prendre.
Ouais, j'espère qu'on va certainement pas révolutionner, mais en tout cas faire évoluer. J'espère la vie de la cité, peut-être la vie de l'entreprise, peut-être la vie du travail. En tout cas, on voit que le travail est en grande mutation et donc on y réfléchit aussi. Il y a peut-être des façons un petit peu de répondre aux problématiques ambiantes. Enfin, en tout cas, je l'espère. Même si on n'est pas des spécialistes, on y travaille. Alors oui, il y a les développements et l'avenir. Moi, j'en vois plusieurs des choses à dire là-dessus. Déjà, on est un Fab Lab lyonnais puisqu'on a d'abord été créé à Lyon et on est venu s'installer un peu à Bron parce qu'on nous a ouvert les portes. Mais quel Fab Lab il y a aujourd'hui à Lyon intramuros? Il y en a pas. Dans le sens du local. Nous, on est une association qui se veut au-delà de la simple ville de Lyon ou de Bron, etc. Mais on aimerait en fait qu'il y ait dans la métropole vraiment un gros Fab Lab qui soit proportionnel à ce qu'on peut, à la richesse du territoire, richesse au sens économique, mais au sens large aussi du territoire. Donc ça manque, et c'est vrai qu'on aimerait bien en être. Donc on essaye de se rapprocher de beaucoup d'acteurs qui sont intéressés.
C'est plutôt les universités, par exemple.
Ça peut être les universités, ça peut être la métropole aussi qui peut s'y intéresser. Mais c'est vrai que les liens avec l'éducation nationale aussi, je pense, vont devoir être développés, parce que je fais un petit aparté là-dessus, c'est que on a beaucoup entendu quand on est enfant, peut-être à l'école aussi, touche pas, tu vas casser. En fait, au Fab Lab, c'est l'inverse, c'est touche, tu vas casser. Si peut-être casser, mais c'est pas grave, on va en refaire un autre. Et on apprend en touchant, voilà. Donc, je pense qu'on peut là aussi compléter des choses qui existent à l'éducation nationale. Et d'ailleurs, on a beaucoup de profs de techno qui viennent nous voir parce qu'ils veulent faire des ateliers et commencer par acheter une imprimante 3D, voilà, avec leurs élèves. Mais je pense que des connexions sont vraiment possibles. Donc, un gros Fab Lab au sein de la métropole, d'ailleurs pas tout seul, avec d'autres acteurs. Du territoire, ce serait vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse, et je pense aussi aux médiathèques d'ailleurs avec lesquelles on pourrait vraiment travailler.
Mais, tu dis un gros Fab Lab, mais il y avait quand même aussi l'idée d'un réseau qui partage. Est-ce que petits Fab Labs aussi, ce serait
il faut le penser exactement comme la médiathèque. C'est-à-dire qu'on peut pas se limiter à un gros Fab Lab central et qui en plus serait piloté par moi. On n'en est pas là. On n'est pas en train de se regarder justement en disant regardez la fabrique d'objets libres, c'est génial, on est là depuis le début, c'est à qui qu'il faut confier les clés du gros Fab Lab. Non, il y a vraiment l'approche réseau. Donc quand je dis un gros Fab Lab et qu'on aimerait en y être, évidemment on aime les machines, on aime bricoler, si on pouvait être dans celui qui serait le plus beau, le plus magnifique, ce serait très bien. Mais y être, en être, avec les autres. Et donc... je pense qu'un gros Fab Lab central, c'est important parce qu'il y a des énormes machines qui coûtent très cher et on pourra pas les trouver dans le petit Fab Lab de quartier. Voilà. Et puis, il y a des compétences aussi à avoir qu'on va difficilement avoir. Il faut être technicien. Donc, il faut qu'il y ait des techniciens dans ces Fab Labs pour pouvoir aider les gens de la communauté.
Mais là, c'est presque une professionnalisation, alors.
Et mais il faut qu'on soit dans ce qu'on appelle le pro-am, l'amateur et le professionnel, et qu'on puisse avoir tout ce service-là. Pour que, d'ailleurs, qu'on puisse adresser aussi bien les particuliers, le grand public, la société, que les entreprises. On peut faire partie de la chaîne de l'innovation parce qu'on peut, on est là non pas pour remplacer les boîtes de prototypage qui font bien leur job, mais plutôt la matérialisation des idées avant d'aller au prototypage, etc. Il faut qu'on couvre tout ça. Mais effectivement, le réseau et les petits Fab Labs, c'est très important. Et on fonctionne en réseau. Alors, on a créé, là, il y a en juin 2015, un collectif qui est informel, qui s'appelle Open ARA, pour Auvergne-Rhône-Alpes, où on se rencontre le dernier samedi de chaque mois dans un des lieux. On tourne de lieu en lieu. Les clés symboliques du lieu sont remises à la fois suivante, c'est-à-dire le classeur d'organisation, les codes pour la gestion internet sont remis au lieu suivant, qui s'approprie tout pour organiser le prochain meeting. Et là-dedans, on va trouver donc des Fab Labs, des hackerspace, c'est-à-dire l'équivalent en termes de logiciels et software que les Fab Labs. On va trouver des galeries numériques, on va trouver une médiathèque, on va trouver quelques entreprises qui sont intéressées par le libre, etc. Et on trouve par exemple un biohack lab, vous avez peut-être entendu parler de la paillasse saune, qui est un vrai lieu d'innovation sociale et urbaine. On trouve là des associations qui œuvrent aussi dans le vélo. Je pense à je me rappelle plus leur nom, mais enfin voilà, des associations autour du vélo, etc. Et donc tous ces acteurs là finalement on a des tas de choses en commun. On se rencontre surtout pour se parler et échanger les bonnes pratiques, faire des tas de choses ensemble, partager des machines quand il y a besoin, etc. Et puis finalement, ensemble, on se rend compte qu'on pourrait faire un Fab Lab absolument extraordinaire. Mais un Fab Lab au sens beaucoup plus large que ceux dont on parlait dans la valeur au départ. Mais une sorte de réseau, un peu au sens des médiathèques. Et quand on rentre dans un des membres de cet écosystème, qui est ouvert à tous, eh bien, on pourrait peut-être, à terme, ça nous ouvrirait la porte pour un autre lieu. Je rentre dans la fabrique d'objets libres et je suis adhérent, et ça va me donner la possibilité d'aller dans un atelier de vélo pour lequel j'ai pas besoin d'adhérer à l'année, mais qui fait partie de ce réseau-là. Eh bien, je pense qu'un énorme Fab Lab, un immense Fab Lab qui pourrait accueillir comme ça différents acteurs, ce serait formidable, et avec chacun de ses membres aussi, qui auraient leur propre lieu et disséminé sur le territoire. Y compris peut-être dans certaines médiathèques, et on l'espère. Voilà. Donc, on parlait des évolutions. Donc, il y a celle-là qui est importante. Il y a un sujet qui est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur et qui est celle des nouvelles formes de rétribution du travail.
Voilà.
Alors, ça, c'est une des évolutions à venir. J'ai parlé tout à l'heure de cette prothèse auditive open source et du fait qu'on veut la rendre disponible aussi sur le marché pour les gens qui voudraient simplement l'acheter et en bénéficier. Il y a une vraie question derrière ça. Moi, j'aimerais qu'on soit un des lieux dans le monde qui ait réussi à faire la transformation pour vraiment que ça puisse servir d'exemple et que ça puisse aller beaucoup plus loin. On se rend compte que dans les Fab Labs, il y a énormément de valeurs, en fait, de compétences, de valeurs, et que quand on regarde quelles sont les activités des personnes qui fréquentent ces Fab Labs, et je parle pas que des personnes les plus actives, mais aussi celles-là, on a des personnes qui sont RSA, des personnes qui sont au chômage, des personnes qui sont étudiantes, retraitées, et on a aussi des salariés, bien sûr. Et toutes ces personnes-là, elles ne font pas forcément des activités où elles tirent pas, en tout cas, leur rémunération forcément de leurs compétences. Il y a des tas de gens qui sont salariés, qui n'ont pas besoin de devenir, je dirais, des makers, hein, c'est-à-dire c'est les personnes qui fréquentent les Fab Labs et gagnent de l'argent comme ça. Et ils gagnent leur vie autrement, mais ils pourraient aussi gagner leur vie.
Mais est-ce qu'ils en ont envie? Est-ce qu'il y en a qui en expriment le... Bah oui, je me professionnalise et j'imagine gagner ma
Alors
vie.
Alors c'est ou, pas tout à fait...
Ou, oui, ou justement, ils viennent aussi parce que... C'est quelque chose où il y a peut-être de la valeur, mais il n'y a pas d'argent.
Ouais. Alors, il faut que tout cohabite en réalité. Si on prend, j'ai un ami par exemple qui est sorti d'une entreprise dans laquelle il était technicien, mais rien à voir avec ce qu'on manipule dans les Fab Labs, dans la plasturgie. Et il a quitté l'entreprise et tout ce qu'il a appris au Fab Lab, il a réussi à prouver finalement aux autres qu'il était capable de maîtriser maintenant ces techniques-là, et il a été embauché dans un Fab Lab privé, c'est-à-dire un Fab Lab d'entreprise. Bon, bah ça c'est une réussite de transformation, il a voulu le faire. Mais c'était pas tout à fait ce que je voulais dire moi dans mon esprit. Dans mon esprit, c'est plutôt la chose suivante. Il faut savoir que dans le domaine du libre, que ce soit le logiciel ou le matériel maintenant, si par exemple vous développez quelqu'un développe un quadricoptère, ces fameux drones qu'on voit beaucoup, il y en a énormément dans le monde des makers et des Fab Labs. Si quelqu'un ils sont libres, c'est très bien, chacun peut se le fabriquer. Bien. La licence qui est associée à cet objet ne permet pas forcément une utilisation commerciale. Pourquoi ? Parce que si 10, 20, 30, 60 personnes, y compris réparties dans le monde, ont contribué à un moment donné à une brique qui a fabriqué cet objet, ils se disent, moi je veux bien fabriquer l'objet, y avoir participé, si ça participe justement au commun dont on parlait tout à l'heure, au bien commun, à la fabrique d'objets libres, fabrique des objets qui participent au commun, le quadricoptère fait par une communauté rentre dans les communs. C'est vrai. Mais le problème c'est que ces personnes, ou une partie des personnes qui ont développé, disent, mais moi je veux pas que quelqu'un fasse du chiffre d'affaires sur le travail que j'ai donné pour les communs. Et c'est respectable, et il faut l'accepter. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'en complément de ça, si d'autres personnes veulent faire la même chose en disant, et je vais prendre du coup l'exemple de ma prothèse auditive open source. Moi, pour l'instant, on l'a pas ouvert parce que notre charte n'est pas encore complètement prête, mais ce que je voudrais, c'est que ça soit fabricable en Fab Lab, pas de problème, gratuitement, dans tous les Fab Labs évolutifs, etc. Mais ce que je voudrais aussi, c'est qu'on puisse le rendre disponible à d'autres, via le marché, parce que le marché est le produit n'est pas sale, c'est le marché qui peut l'être. On peut le faire avec certaines valeurs. Mais dans ce cas-là, les personnes qui ont contribué, il faut qu'on ait suivi le temps qu'elles y ont passé ou la compétence qu'elles ont donnée, et c'est là qu'est la vraie difficulté, pour que si de l'argent est fait à un moment donné parce qu'on le met sur le marché, il y a une rétribution qui soit faite, pas forcément une rétribution monétaire. Oui, une rétribution monétaire si la personne a les moyens de la recevoir. Ça peut être auto-entrepreneur ou autre, je ne sais, ou qu'elle a déjà une entreprise, etc. Pourquoi pas? Ça peut être aussi une autre forme de rétribution. Ça peut être des bons cadeaux, tout simplement. Ou ça peut être, disons, bah voilà, dans le Fab Lab, tu vas pouvoir, être abonné pendant 5 ans gratuitement ou autre, peu importe.
Et sur ce thème de la rétribution, il y a deux choses. Il y a effectivement la répartition par rapport au temps qu'on peut y passer les personnes.
Ou la compétence.
Et il y a aussi la valeur marchande qu'on va donner.
Oui.
Il n'y a pas seulement le pourcentage de la proportion de partage, mais la somme, et ça, c'est décidé, voilà.
C'est pour ça que le problème n'est pas résolu. Oui. Le seul problème, c'est une question que je pose, et puis alors je suis absolument pas un théoricien de tout ça.
Il y a un problème juridique sous-jacent.
Oui, et c'est pour ça qu'il y a un juriste qui est très très sensible aux valeurs aux valeurs de l'open source, du libre et de ce qu'on fait dans les Fab Labs, qui s'appelle Kevin Meurdefroy, et je lui fais un clin d'œil, et qui est d'ailleurs impliqué dans le développement de cette prothèse, et on va essayer de travailler à ça absolument. Oui, qui va fixer le prix, comment est-ce qu'on va définir les règles, etc. Mais tout ce que je veux, on va peut-être se planter, c'est pas grave, voilà. Parce qu'on est dans l'expérimentation. Mais voilà. Tout ce que je veux, c'est que la communauté, une fois qu'on l'aura ouvert, il faut que cette charte soit, au moins le minimum soit dedans, pour que quelqu'un qui va donner du temps, de l'énergie, de la matière grise, de la matière tout court, il sache quelles sont les règles qu'on s'est données jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on le mette à disposition dans le marché, disons sur les étagères quelque part. pour qu'il ne se sente pas à un moment donné spolié et qu'on a volé la valeur qu'il a donnée. Voilà, il faut que la règle soit claire dès le départ. Et puis on va peut-être se planter sur des choses, et la deuxième itération, on fera autrement. Mais je me dis, on a de la valeur d'un côté, des gens qui cherchent du travail, on a de plus en plus de difficultés à trouver de l'emploi, on a des spécialistes, des think tanks, des philosophes, je pense à Bernard Stiegler avec Ars Industrialis qui parle de la fin de l'emploi, on voit ce qui se passe avec la loi travail, la flexibilité, etc. Bon, il y a un vrai problème, et moi ce que je vois d'un autre côté, c'est que il y a la valeur en termes de biens communs, en termes de biens, en termes d'objets, en termes même de produits, qui sont d'un côté, avec des gens qui produisent ça et qui ont besoin d'argent, et de l'autre, des gens qui sont, pour les uns, sensibles à et capables de se les fabriquer, et ils le font gratuitement avec la matière première, et d'autres qui veulent juste l'acheter, et ben ils peuvent l'acheter à un prix qu'on voudra éthique, on veut que tout le système soit éthique, et qui va d'un autre côté rétribuer ces gens qui ont besoin d'argent. Tant qu'à faire, autant les mettre en commun. Je suis pas un militant de la flexibilité du travail et du multi-employeur, etc. C'est pas la question que je pose. Je constate qu'il y a des gens qui ont de la valeur et qui ont besoin d'argent, et d'un autre côté, des gens qui sont prêts à payer des choses avec un prix éthique. J'ai envie de mettre ça
On peut faire une déconnexion. C'est la connexion qu'il faut trouver, la bonne connexion entre tout ça, quoi.
Voilà. Mais surtout que personne se sente trahi par ce qu'on fait. Donc faut que les règles soient.
Faut pas qu'il y ait de détournement.
Faut que les règles soient claires dès le départ, quitte à ce que l'itération suivante, on la fait évoluer en fonction de l'erreur qu'on a faite. C'est un crash test, mais il faut y aller.
Effectivement, éviter le côté un peu la dérive vers l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire un peu pas de règles et alors qu'il y a effectivement cette volonté qui semble être sans règles du commun qui effectivement. Enfin, c'est pas une question de règles, mais qui est pas encore juridiquement
alors, borné. Bernard Stiegler dit qu'il faut étendre la notion de l'intermittent du spectacle, enlever le terme spectacle. Et puis bon, après il y a certainement encore d'autres choses à faire. Il est évident que il va falloir la protection sociale, il va falloir sacrément la réfléchir. Je crois que personne d'entre nous n'a envie de la dérégulation, c'est pas la question. Au contraire, on est dans la solidarité, on est dans le principe de la solidarité. Et dans les Fab Labs, il y a cette notion très forte de solidarité qui est présente. On le voit avec nos participations au handicap, mais ne serait-ce que dans la façon dont la vie se passe dans le lab. Nos valeurs sont des valeurs éthiques, solidaires, donc on n'est pas pour la dérégulation. On se rend compte qu'il y a des connexions à faire qui ne se font pas aujourd'hui, et que peut-être même que dans cette idée de fonctionner en réseau, on parle beaucoup, alors va peut-être falloir introduire la notion si je commence à parler de blockchain et autres, mais en tout cas cette façon de fonctionner en réseau, de finalement entre nous, on arrivera peut-être à faire des choses qu'un système tel qu'il est organisé maintenant est peut-être pas capable de le faire. Parce qu'on parle de rétribution, et j'ai même parlé de rétribution peut-être sous forme monétaire, mais j'ai pas dit que c'était des euros. Euros, ça pourrait peut-être être de la gonette, du bitcoin ou autre, il y a tellement de l'éther, il y a tellement de solutions derrière ça. Un autre système est peut-être possible, et à mon avis plutôt d'ailleurs en complément qu'à la place. Enfin, on est tellement nombreux sur la planète et pas tous d'accord qu'à mon avis c'est plutôt des compléments qui se passeront qu'autre chose. Mais bon, encore une fois, moi j'observe, j'essaie de faire ce que je peux dans le petit jardin que je cultive avec d'autres, mais voilà, très sensible à ces notions. Ouais.
Les coordonnées donc de la fabrique d'objets.
Alors le site internet c'est fablab-lyon.fr. Notre Fab Lab mobile c'est fablab.mobi. Et puis on est donc basé à la MJC de Bron.
Et on pourra retrouver toutes ces informations ainsi que télécharger l'émission donc sur le blog du Grain de Sable sur Radio Canu et sur le site d'Atacroon.
Merci Pierre.
Merci à vous, à bientôt.
Merci, on vous laisse avec le Canu Info.
Double Tion, she's promised.